puis je vais voir dans ce cas-ci le ganglion de la base, c'est-à-dire le 15. Puis je vais voir la physiologie. Puis je vais voir les différents points physiologiques qui sont dans le bouquin. Quand j'ai plus de points physiologiques prioritaires qui sortent, je peux à ce moment-là, puisque je travaille sur un mouvement, mon thème est en mouvement, aller voir dans le cortex.
Oui, mais j'avais juste une question au niveau de quand j'ai plus de points qui sortent, il suffit de les rentrer. Hein. On fait rien.
Je vais rentrer les puissances de stress.
Ok. Oui.
Ça va? Oui, maintenant je vais dans le cortex, oui. Je vais voir. Je rentre ce qui sort, je vais bouger, je caresse, etc.
Oui.
J'ai plus rien qui sort dans le cortex. Oui. Je vous ai dit ensuite, je retourne dans la ligue.
Oui.
Et je retourne voir le 15.
Oui.
Physio et les différents points.
Après avoir été dans le cortex.
Oui.
D'accord. C'est ça.
Ça va? Autre chose? L'hypothalamus.
Et quand on aura autre chose que le cortex, on fera le cortex, nani, nana.
On verra, il y a différentes manières de faire.
Okay.
On verra à ce moment-là. Donc je vous rappelle, l'hypothalamus porte son nom. Pour Richard, il est mis dans le système limbique. Ça, c'est pour Richard. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais ici, il est mis là. Et vous le voyez, il constitue la paroi du troisième ventricule dans sa partie inférieure. En haut, c'était le thalamus, et c'est un ensemble de 13 noyaux différents. Si vous regardez le schéma suivant, ça je viens de faire après. Voilà. Vous avez ici, c'est juste cette zone-là qui est agrandie, où vous avez le troisième ventricule et tous les noyaux de l'hypothalamus. Et vous voyez qu'il y a des noyaux qui sont vraiment collés à la paroi, et puis il y a une deuxième région, et puis il y a une troisième région de noyaux. Ça va? Et ça, ce sont vos 13 noyaux de l'hypothalamus. Ceci, c'était vu en coupe comme ça. Si je vous le montre en coupe comme ça, voilà, par exemple, c'est très schématique, mais vous avez, donc ça c'est le troisième ventricule, et au niveau de sa paroi, vous avez les noyaux.
Ils sont séparés, les noyaux, ou ils sont...
Il n'y a pas ça. Ça c'est notre vision d'esprit. Souvent en anatomie, on présente des noyaux comme ça, mais en fait c'est un amas de corps cellulaires qui chacun envoie leur truc. Et à certains endroits dans le cerveau, il y a plein de corps cellulaires rassemblés, et ça, on appelle un noyau. Mais ce n'est pas bien arrondi, entouré d'une membrane ou quoi, non. C'est juste plein de corps cellulaires ensemble, tu vois. Alors, quand on fait des schémas, c'est schématisé, on te met, ah là, tu vois, là, il y a des corps cellulaires qu'on appelle comme ça et qui ont telle fonction, et puis d'autres corps cellulaires, etc. C'est plus comme ça. Par exemple, une autre présentation... Vous avez plus, c'est la même chose que ça, mais autrement. Voilà, vous avez ici le corps calleux. Le 14, c'est le fornix, on n'a pas encore vu. Ceci, c'est la paroi du troisième ventricule avec l'adhérence interthalamique. Et puis la paroi du ventricule en dessous du thalamus qui est ici. Ce sont tous ces noyaux. Ça va? Mais ici, ça paraît être dans le troisième ventricule, mais c'est la paroi, hein, le troisième ventricule, c'est une fente vide. Les noyaux ne sont pas dans le troisième ventricule, ils constituent la paroi, comme vous le voyez bien sur le dessin précédent. Ici, c'est une autre vision encore de la même chose, plus complexe, où vous avez le thalamus qui est là-bas, l'adhésion interthalamique, et puis tout ça c'est le troisième ventricule, et dans la paroi inférieure, allant vers ce qui s'appelle ici l'hypophyse, on a l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus c'est vraiment le bas du troisième ventricule sur lequel vient se fixer ce qu'on appelle l'infundibulum qui porte l'hypophyse. ça va. Et l'hypothalamus et l'hypophyse sont très très liés. Bien. Et donc vous voyez ici dessiné de manière les différents noyaux qui constituent cette paroi. Mais c'est comme si quand on les voit comme ça, ça paraît être dedans. Mais je vous rappelle bien, c'est pas dedans.
C'est les parois.
Ce sont les parois. Rappelez-vous ceci. Hein? Ici, vous voyez bien le troisième ventricule et il constitue les parois. Et au-dessus, ce sont les thalamus qui constituent les parois. Ben, c'est la même chose ici. Ça, c'est dans la paroi. C'est comme si on voyait à travers là, tous les noyaux les uns derrière les autres. Ça va? Ok pour ça?
Tu peux juste me rappeler qu'est-ce qui est accroché à l'hypophyse?
L'hypophyse. Ça, c'est la glande hypophyse. Mais souvent, dans tout ce qui est glandulaire, on parle toujours de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Parce que l'hypothalamus fabrique des hormones qui descendent dans l'hypophyse pour sécréter d'autres, pour que l'hypophyse sécrète d'autres hormones. Donc, l'hypothalamus, c'est aussi bien une partie du cerveau qu'une partie glandulaire. Et l'hypophyse a deux parties. Le lobe antérieur qui va sécréter... Il y a l'hypothalamus qui va dire, voilà, hormone de libération de la thyréostimuline. Et donc, l'hypothalamus sécrète donc une hormone qui va aller libérer une hormone de l'hypophyse antérieure qui s'appelle la thyréostimuline. Et l'hypophyse antérieure va libérer sa thyréostimuline qui, elle, va aller vers l'hypophyse pour que l'hypophyse sécrète ses hormones T3, T4. Ça va? Donc il y a une hormone hypothalamique, puis une hormone hypophysaire, puis une hormone dans la glande. Au niveau des ovaires, etc., c'est la même chose. Il y a une hormone de libération de la gonadostimuline. Une fois qu'elle est arrivée là, la gonadostimuline va être sécrétée là, et va aller vers les ovaires pour dire, hop, progestérone, hop, œstrogène, etc. C'est toujours le même principe. Ça, c'est l'hypophyse antérieure. Mais dans l'hypophyse postérieure, c'est différent. On l'appelle la neurohypophyse. Dans l'hypophyse postérieure, il y a deux hormones qui sont sécrétées dans l'hypothalamus, qui sont la vasopressine ou l'hormone antidiurétique d'une part, et d'autre part, l'hormone des câlins, l'ocytocine. Et ces deux hormones sont fabriquées là, stockées dans le lobe postérieur et sécrétées. Donc il n'y a pas une autre hormone là. Elles sont stockées là. Mais sinon, en gros, on va revoir ça dans les fonctions. En gros, l'hypothalamus contrôle en grande partie l'hypophyse. Ça va? Bien. Je regarde s'il y a encore d'autres schémas que je voulais.
Est-ce que la deuxième non l'hypophyse?
La pituitaire. Vous avez aussi dans le bouquin ce schéma-ci, avec correspondance de la zone de localisation des différents noyaux. Il y a juste le 6VC qui n'est pas montré, dessiné, parce qu'il cache tous les autres noyaux. Donc vous voyez qu'au niveau anatomique, le 1VC correspond à l'hypothalamus postérieur, le 2 au noyau suprachiasmatique, etc., etc. Ça va? Donc, quand vous êtes dans le système limbique, du 1 au 13, ce sont les noyaux hypothalamiques. Il y a 13 noyaux différents. Ça va? Bon, maintenant, on va voir plus précisément ce que sont ces différents noyaux et ce qu'ils font. Si vous devez retenir un mot-clé pour l'hypothalamus, c'est le mot maintien de l'homéostasie. Il n'est pas plus grand qu'une lentille, l'hypothalamus. Il est situé extrêmement en profondeur, vous l'avez vu, donc vraiment très très interne. Et donc il est extrêmement bien protégé, très rarement lésé par des traumatismes. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le maintien de notre survie physiologique. Mais malheureusement, il peut être lésé par des toxines, mais pas par des chocs, des traumatismes. Donc il va vraiment jouer dans notre survie de base. Il va vérifier que les choses nécessaires à la survie soient présentes. Soit dans l'environnement externe, c'est lui qui va nous donner faim, qui va aller chercher à manger. C'est lui qui va nous donner soif, qui va aller chercher à boire. Mais aussi à l'intérieur. Donc, que les choses nécessaires à la survie soient présentes à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Comme la thermorégulation. Comme la distribution de la nourriture, la glycémie par exemple, le sel, la tension artérielle, les pulsions sexuelles de base, etc. Donc quelque part, pour maintenir l'homéostasie, l'hypothalamus va créer des motivations, des choses qui vont nous motiver à un point extrême. Si je crève de faim, eh bien c'est clair que je vais être motivée à trouver de la nourriture, et de manière très très forte. Ça c'est l'hypothalamus. Dès la naissance, l'hypothalamus est mature. Logique, c'est la survie. Si un bébé a faim, il nous le fera savoir. Et il est impliqué directement dans la réaction de stress, mais pas dans le niveau émotionnel, mais dans le niveau physiologique. C'est par exemple lui qui donne la physiologie de mes émotions. Qui va faire que mon cœur commence à battre, que je respire plus vite, que je transpire, ou que j'ai froid, etc. Ça, c'est l'hypothalamus. Donc, c'est la réaction de survie, mais au niveau physiologique. Et c'est lui qui va, quelque part, déclencher éventuellement des réactions émotionnelles, mais vraiment crues, quoi, primaires. Reptilienne presque. Donc si vous devez retenir des mots-clés, c'est le mot homéostasie, c'est le mot survie physiologique, c'est le mot pulsion et motivation de base. Est-ce que tu as copié maintenant ? Et vous allez voir que l'hypothalamus, il est à peu près connecté à toutes les régions du cerveau. Donc si je mets l'hypothalamus ici, au centre, il est connecté au cortex, il reçoit des informations du cortex par deux zones principalement, mais bon, ça ne limite pas, hein, par le système limbique, et dans le système limbique, surtout l'amygdale et l'hippocampe. Deux chers copains qu'on rencontrera demain. Il reçoit aussi des informations du thalamus dorso-médian. Et le thalamus dorso-médian joue un rôle dans l'expression des sensations, des émotions et des comportements. Il il reçoit aussi des informations en provenance des viscères. Par exemple, il entend le message « Aïe, mon foie ». Il reçoit aussi des informations. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que tous les sens passaient par le thalamus, sauf l'odorat. Il reçoit des informations du nez. Donc ça passe pas, je vais mettre ici, pas par le thalamus. Thalamus, je barre. Ça passe pas par le thalamus et c'est ce que je sens, l'hypothalamus va déclencher une réponse viscérale. Donc c'est pour entraîner, cela entraîne la réponse viscérale à l'odeur. Et vous voyez ça très bien dans les trucs interraciaux. Hein. C'est viscéral, il pue. C'est très très fort ça. C'est non contrôlé. Hein. La réaction est là avant tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez aussi ici, dans l'hypothalamus, il y a différents noyaux, il y en a 13. Il y en a deux dont je vais vous parler plus spécifiquement, c'est qui sont le noyau. Hypothalamique postérieur, et je vais vous parler aussi du noyau suprachiasmatique. C'est deux des 13. Ça, c'est toujours l'hypothalamus. Mais du thalamus dorso-médian, il y a une réaction, un lien qui va directement vers ce noyau-là. C'est un exemple. Hein. Pourquoi? Pour la dilatation pupillaire, par exemple. Vous allez voir, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, le thalamus dorso-médian joue un rôle dans l'expression des émotions, par exemple. Eh bien, dans la peur, je vais avoir une dilatation pupillaire, et c'est le noyau postérieur qui joue ce rôle-là. Une autre chose intéressante, c'est, je vais mettre en bleu ici, la rétine. Envoie des impulsions directement vers le noyau suprachiasmatique pour faire l'intégration visuelle. Autre exemple de fonction hypothalamique. Bien. C'est deux exemples qui citent dans le texte, c'est pour ça que je vous le mets là. Bien. Donc ça c'est, vous voyez qu'il y a plein de choses qui arrivent à l'hypothalamus. Ok. Maintenant, il y a des choses qui partent de l'hypothalamus. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel va être son rôle, l'hypothalamus? Il va contrôler, donc je vais mettre comme ça, hein, il joue un système de contrôle. De contrôle de quoi? D'une part, il va contrôler tout le système nerveux autonome. Tout le système nerveux qu'on appelle végétatif. Ça veut dire quoi? Le système nerveux autonome joue un rôle dans toutes les fonctions physiologiques de base. Là, je ne vais pas le mettre au tableau, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la place. Mais c'est par exemple la température, l'équilibre hydrique. C'est dans votre texte, hein, la fréquence cardiaque, la tension artérielle. L'activité dans les intestins, tout ça, ce sont des fonctions physiologiques de base qui sont contrôlées par l'hypothalamus à travers le système nerveux autonome. C'est lui le chef du système nerveux autonome. Mais le système nerveux autonome va aussi jouer un rôle dans l'expression liée au comportement et aux émotions. Donc l'expression de la colère, l'expression de la peur, l'expression du calme, l'expression de la rage, l'expression du comportement sexuel, etc. C'est de lui que ça vient. Ça va ? Réaction physiologique de base et les expressions, les comportements. Ok ? Première chose. Deuxième chose, ça va contrôler, je vous l'ai montré tout à l'heure, tout le système glandulaire. Comment ? Parce que ça passe d'abord par l'hypophyse ou la pituitaire, et puis de là vers les autres glandes. Et puis ça joue aussi un rôle sur le système musculaire qu'on appelle le système musculaire somatique. Par exemple, les poils qui se dressent, les muscles des intestins, des choses comme ça. Donc, tout ceci fait que, par exemple, si j'ai peur, eh bien, je vais ici avoir mon cœur qui bat plus vite, je vais transpirer, et l'expression de peur va se voir dans mon visage, dans mon comportement. Ça va ? Mes poils vont se dresser, etc. Donc on sent bien que c'est lié à cette survie, mais pas la survie de mes émotions, de mon ego, la survie de mon corps. Ça va ça ? Donc voilà pour l'hypothalamus. Maintenant,
j'ai deux questions. Oui. Oh là là. Quand tu dis le système nerveux autonome, c'est tout ce qui est automatique.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'une expression liée à un comportement peut être vraiment 100% automatique, enfin, hors contrôle, conscient ?
C'est-à-dire que quand tu es en état de stress, tu sais bien, n'existe plus. Je ne peux plus utiliser mon cerveau conscient. Donc, c'est mon cerveau survie qui réagit. En général, c'est le cerveau limbique émotionnel, l'amygdale, etc. Mais c'est aussi, l'amygdale commande l'hypothalamus, c'est aussi ma survie physiologique. Si je dois courir, je dois pouvoir courir, avoir une respiration qui change, plus d'énergie dans les muscles. Mais je ne dois pas faire ça consciemment.
Je
n'ai pas le temps.
Et alors, une deuxième question plus générale, c'est le mot physiologique.
Alors, physiologie, tu peux l'opposer à pathologie. C'est le fonctionnement normal, la pathologie, c'est le fonctionnement anormal. Mais physiologie, t'as entendu ce que j'ai dit ?
Oui.
Physiologie, c'est fonctionnement. Mm-hmm. Ça va ? Donc, j'ai l'estomac organe, ça c'est une structure qui se contracte, se relâche, sécrète des acides, etc. La contraction, relâchement, la sécrétion d'acide, c'est sa fonction, c'est sa physiologie. Qui peut marcher ou pas marcher. Si elle ne marche pas, ben on appelle ça la pathologie.
C'est ça.
Ça va ? Bon, vous prenez maintenant la page 23-24 et on va voir les différents noyaux et leur fonction. Là, vous allez vous demander de rajouter des choses. Si vous regardez en haut, il a mis mettre en circuit le format limbique, 23-24, puis aller voir les différents points de 1 à 13 pour trouver ce qui donne un changement d'indicateur, et puis vous entrez en mode physiologie. Ça va ? Et puis vous allez voir les points fonction. Alors je explique parce que ce n'est pas très clair. Ces points-là, sur la gauche, de 1 à 13, ça, ce sont les points anatomie. Ce sont les points dont on parle au point 1. LC, des points indicateurs spécifiques 1 à 13, BC. D'accord ? C'est la colonne de gauche. La colonne de gauche sont les points anatomiques. Ça me dit quel noyau hypothalamique.
C'est comparable à le 14 décembre.
Tout à fait, c'est toujours la même chose. Une fois que j'ai vu ma colonne de gauche, ça me dit quel noyau c'est. Je rentre le mode physio, point 2. Point 3, allez voir les points indicateurs. Ce sont les points physio cette fois-ci. Et les points physio sont la colonne qui se trouve au centre. Par exemple, pour le 1VC, vous avez 4 points physio qui commencent par le 21 de rate. Vous voyez ça? Ça va? Ok. Alors, le premier noyau qu'on va voir, c'est le noyau hypothalamique postérieur. Je vous donne plein d'infos hein, à gratter dans le bouquin parce que je crois que vous n'avez pas tout. Là, hein, je suis là. Le noyau hypothalamique postérieur va activer le système sympathique. Donc, et le système sympathique est actif en situation de stress.
Excuse-moi, l'hypothalamique postérieur, le premier.
Oui. Vous voyez, le 21 de rate, au niveau fonction, est associé à une augmentation de la tension artérielle. Ben, en situation de stress, si je dois réagir, il faut que ma tension artérielle augmente. Le 27 de rein, associé à la dilatation pupillaire, qui s'appelle la mydriase. Pourquoi je dilate mes paupières quand je suis en situation de stress? Pour laisser rentrer plus de lumière, et c'est aussi une réponse à la peur. Il faut que je voie tout grand. Ça va? Mais ça peut aussi être lié à l'épuisement des surrénales, la dilatation pupillaire. Ou si je prends des médicaments, des drogues. Le 20VG, tremblement. Tremblement de peur. Tremblement d'excitation, de rage. Je tremble pour que mes poils se dressent et pour garder la chaleur en situation de stress. Mais c'est aussi des tremblements de non-confiance à son intuition. Et le 10TR correspond à une hormone hypothalamique, l'ACTH ou corticotrophine, qui elle va être envoyée dans le sang pour que le cortisol, hormone de stress des surrénales, soit libéré. Ça va? Ça va? C'est une hormone qui nous permet de réagir face au stress. C'est un corticoïde.
Ah
ouais.
Oui, mais c'est ça. On en donne.
Le cortisol, c'est un corticoïde naturel.
Oui.
Ça va? Le 2VC, c'est le point du noyau suprachiasmatique qui nous aide à intégrer la vision périphérique interne et externe. Donc vraiment à intégrer toute la vision. Avoir en trois dimensions. Et l'idée, c'est il faut que je puisse repérer le danger, m'orienter. Et vous voyez que vous avez deux points physiologie, le 7 de rein qui est plus la vision périphérique interne, c'est-à-dire si je focalise sur ceci, là, mes yeux font ça, mais mon nez, ils en ont conscience. La vision périphérique interne, elle est là. Et puis le 8 de foie, c'est la vision périphérique externe, c'est là. Ça va? C'est pendant que je me focalise sur quelque chose, je dois continuer à voir partout. Ça, c'est le noyau suprachiasmatique. Pouvoir intégrer ma vision focalisée sur un truc, sur le prédateur là-bas, tout en pouvant voir qu'il n'y a pas d'autres prédateurs autour. Ça va?
Ça, c'est 8 de foie.
Le 8 de foie, c'est externe. Le 7 de rein, c'est interne. 3VC, R préoptique interne, ça c'est plus une réaction de type parasympathique. Le 1, c'était sympathique. Le 1VC, c'est la contraction de la vessie. Quand je suis en situation de stress, il vaut mieux que ma vessie ne se manifeste pas. Et vous savez très bien, parfois en situation de stress, on ne sait pas aller à la toilette. On a la vessie pleine et on ne sait pas y aller. C'est ce point-là. Le stress nous empêche d'aller à la toilette. Ou l'inverse. Mais dans ce cas-ci, c'est ce point-là. Ça va ? La fréquence cardiaque diminuée, la tension diminuée. Et vous pouvez rajouter encore un autre point pour le 3VC, donc un autre point physiologie sous le 9 péricarde, le 1 péricarde. Et c'est ça correspond à l'hormone de libération de la gonadotropine. C'est surtout chez l'homme. C'est l'hormone qui est associée à la libération de la testostérone. Et donc, c'est l'hormone qui permet de partir à la recherche de la femelle, la motivation de la recherche de la femelle. La sexualité masculine s'exprime s'il y a assez de testostérone. S'il y a un stress là, à ce moment-là, la fonction sexuelle va être affaiblie. Ça va ? Bien. Ce qui est marqué au milieu, là, pour la régulation de la température, vous mettez ça entre parenthèses. C'est un exemple qui se trouve là, en plein milieu. Par exemple, je vous l'explique, si... Vous devez travailler spécifiquement la température, mais vous pouvez aller au 1VC, qu'on vient de voir, puis le 20VG qui est lié au tremblement, ou le 10TR et mettre du froid sur la peau pour que la personne réagisse au froid, voilà, par exemple. Ça va, mais on saute ça. Le 4, c'est les corps mammulaires. C'est eux dont je vous parlais quand je disais qu'Alfred s'est élevé de la table en salivant. Les corps mammulaires, 1 de péricarde avalé, 3 péricarde se lécher les lèvres, 7 péricarde salivé, et vous pouvez en rajouter un, le 9 péricarde, la construction de la mémoire. Et vous rencontrez ça chez les alcooliques, ce point-là. Chez les alcooliques, cette construction de la mémoire se détériore. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fabuler. Parce qu'il y a des trous de mémoire. On a tous hein, des trous de mémoire. Et donc, on comble. Même sans s'en rendre compte, on remplit les choses. Mais chez les alcooliques, c'est encore plus fort. Parce qu'il y a des lésions des corps mammulaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je ne sais plus. Mais non, je ne peux pas dire je ne sais plus. Donc, je dois créer une histoire. Ça va? Bien. Le 5VC, noyau dorsomédian, c'est aussi un noyau parasympathique. Et vous voyez que c'est tout lié à la digestion, au péristaltisme, du duodénum, du jéjunum, de l'iléon, de la valvule iléosécale et de l'appendice. Le 6VC, le 1 de rein est lié à la soif. Soif dans le sens, j'ai plus assez d'eau, mon sang est trop épais. Et le 45 d'estomac à la faim. Par exemple, la faim de sucre, j'ai pas assez de sucre dans le sang, des choses comme ça. Et il peut y avoir des confusions là. C'est par exemple, je vous donne un exemple de où cette R pourrait sortir. Une personne a soif et elle mange parce qu'elle a soif. Elle va manger, elle va manger quoi ? Des sucres, des hydrates de carbone, etc. Mais si vous regardez la molécule du sucre, à partir du sucre, on peut fabriquer de l'eau dans le corps. Ça va ? Mais donc, au lieu de boire, qu'est-ce qu'ils vont ? Il va y avoir des perturbations à ce niveau-là. Donc, c'est par exemple un des points qui peut beaucoup rentrer en jeu dans les problèmes de poids, d'aliments alimentaires, hein, puisque c'est la soif et la faim. Ok.
Je peux répéter le corps mammulaire. Comme tu disais, ça motive les gens.
C'est oui, c'est. Je me lèche les lèvres, je salive, donc c'est.
J'ai envie, quoi.
Mais c'est surtout j'ai envie de nourriture, hein.
Oui, oui.
Mais c'est aussi j'ai envie de. j'ai un appétit, tu vois. Je retrouve un appétit de manger, mais aussi de vivre. Okay. Le 7 WC, lymphondiboulon. Donc, c'est cette sécrétion de l'hormone antidiurétique, qu'on appelle aussi la vasopressine. Et l'hormone antidiurétique, ben, si elle est anti-pipi, ben, je vais garder l'eau, donc je vais peut-être faire des œdèmes, je vais garder l'eau au niveau des reins, etc. Donc, c'est l'hormone qui empêche d'uriner. Mais aussi, je vais dire ça comme ça, mais aussi qui empêche de marquer son territoire chez les mâles. Donc elle joue aussi un rôle dans la sexualité masculine.
Ça peut être trop actif ou pas assez.
Éventuellement, oui. Le 8 WC, elle préoccupe postérieur et hypothalamique antérieur. C'est la gestion de la température en trop. Vous le voyez, le 1 de rein étant la sudation. Vous voyez, au niveau du 4TR, je vous explique ça, c'est l'hypothalamus qui inhibe une hormone pituitaire, la thyréotrophine. Et l'hormone pituitaire, si elle est inhibée, eh bien, il va y avoir moins d'hormones thyroïdiennes. Et les hormones thyroïdiennes, c'est elles qui produisent la chaleur. Donc s'il y a une inhibition depuis l'hypothalamus sur la pituitaire, sur la thyroïde, la température va chuter. Ça va ça ou pas? Donc l'hypothalamus dit à l'hypophyse, stop, ne sécrète pas ta thyréotrophine. La thyréotrophine ne va pas aller là pour stimuler la sécrétion d'hormones ici. Et donc j'aurai moins d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Or la thyroïde, c'est vraiment le chauffage central. Mais si la thyroïde fonctionne moins, ben, j'aurai froid. Température baisse. Et puis vous avez le 1 de poumon. Alors, j'ai mis soufflement, mais c'est peut-être pas très juste, ce serait mieux allaitement. C'est ce que font les chiens pour se refroidir, pour réguler de nouveau la température. Donc, c'est une régulation de température quand il fait très chaud.
Tous les trois,
oui, oui, les trois. Le 9 WC, loyaux supraoptique, 27 de rein, c'est la rétention d'eau. Je retiens l'eau et donc j'ai de l'urée qui sort, beaucoup plus d'urée que d'eau. Le 10 de WC, noyau paraventriculaire. Rétention d'eau, désir de boire de l'eau. Puis vous voyez que les deux suivants sont liés à la libération d'ocytocine vers les seins. Vers les seins, pourquoi? Mais entre autres pour, au moment de la lactation, mais aussi pour l'érection du mamelon. Vers l'utérus, surtout dans les contractions lors du travail à la naissance, à l'accouchement. L'ocytocine est produite dans l'hypothalamus et libérée dans l'hypophyse postérieure. C'est l'hormone des câlins. C'est l'hormone qui favorise le lien mère-enfant. C'est l'hormone qui fait que la mère a envie de prendre soin de son enfant, de s'en occuper, etc. Mais c'est aussi l'hormone des câlins dans la sexualité. Donc l'hormone de proximité, d'intimité. Et elle est sécrétée au moment avant, au moment ou après l'orgasme. Ça va? Okay. Le noyau ventromédian,
que chez la femme, oui, j'ai...
Non, chez les deux. Chez les deux, au moment de l'orgasme, c'est chez les deux. Hein. Okay. L'hormone des câlins existe chez les deux. Chez la femme, au niveau des seins et l'utérus, ça c'est plus au moment de l'accouchement. Le 10 de rein pour le noyau ventromédian, c'est la satiété alimentaire. J'ai assez mangé. Cette sensation que ça suffit, arrête-toi. De nouveau, ça peut sortir dans les problèmes alimentaires. Puis le 24WC, les mi-contrôles neuro-endocriniens. Mais c'est le contrôle de l'hypothalamus sur l'hypophyse. Surtout, disent certains, dans la sexualité féminine, dans le désir sexuel. Je vous rajouterai tout à l'heure des trucs sur l'hypophyse, sur le cytosine si vous voulez, mais je vais d'abord terminer. Le 12WC est noyau périfornical, le 1 estomac à la fin, le 3 péricarde, tension artérielle accrue, le 14WC, rage, mais c'est la rage généralement défensive, mais souvent agressive pour obtenir ce que je veux. J'arrive pas à obtenir ce que je veux. J'arrive pas à détacher ces putains de trucs de ma plaque de voiture et ça m'énerve. Je veux pas lâcher prise. Le 13WC, noyau arché zone périventriculaire, de nouveau c'est contrôle neuro-endocrinien de l'hypothalamus sur l'hypophyse. Alors, chez la femme, en général, l'ocytocine est présente surtout au début de, enfin, dès le début de l'acte sexuel, dès le début du flirt même. Et l'ocytocine joue un rôle dans la contraction utérine durant l'orgasme. Chez l'homme, l'ocytocine est beaucoup plus élevée après l'orgasme, après l'éjaculation. L'ocytocine, c'est aussi l'hormone de fidélité aux personnes, mais aussi aux endroits, aux situations. Si à un endroit, j'ai vécu quelque chose de très chaleureux, de très câlin, eh bien, j'aimerais retourner dans cet endroit. Parce que le souvenir va relibérer l'ocytocine en moi. Et vous vous souvenez tout en haut, là, au 7WC, on a parlé de cette vasopressine, l'hormone antidiurétique. Je vous ai dit que c'était lié aussi à la sexualité masculine, mais la vasopressine est très très proche au niveau structure de l'ocytocine. Et elle joue un rôle, j'aurais pu préciser, dans la sexualité masculine, dans le sens, bien sûr, je marque mon territoire, mais c'est aussi une hormone qui peut intervenir dans la jalousie, dans l'agressivité intermâle pour défendre sa femelle, etc. Donc, voilà pour tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Quelle heure est-il? Combien?
3h30.
Et toi, tu vas partir. Je vais faire une démo, hein. Je vais faire une démo, ça va?
Ça va. Oui, j'assume. Okay.
Et pour qu'il y ait plusieurs points qui sortent dans l'hypothalamus, je propose de travailler sur le poids. Le poids ou des trucs alimentaires, des comportements alimentaires, quelque chose de ce type-là. Ça va ? Pour pouvoir juste travailler plus spécifiquement dans l'hypothalamus. Parce que vous avez vu, il y a plusieurs points dans l'hypothalamus liés au poids. Peu importe qui vient, moi ça m'est égal, vous choisissez.
Moi je veux bien.
Toi tu veux bien? Ok.